Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Dans le cadre de cette émission Voix des chrétiens, nous avons pris l'habitude d'aborder des thèmes bibliques, généralement, voire d'actualité quelquefois, confession par confession. Nous avions dans le passé effectué quelques tables rondes autour notamment de la question de Marie. Ça avait été bien perçu, je pense. Donc, on a décidé, pour les deux thèmes que nous allons aborder, à savoir la résurrection et Luther, de les traiter sous forme de table ronde, en réunissant toutes les confessions. Malheureusement, pour le thème de la résurrection, nous n'aurons pas la confession anglicane, car nos sœurs anglicanes, June Hutchinson et Elisabeth Espitalier sont prises par des occupations diverses qui ne leur ont pas permis d'être parmi nous. Donc nous allons traiter ces deux thèmes sans elles, mais en pensant néanmoins à cette confession anglicane. Alors le thème de la résurrection, c'est un thème si important pour les chrétiens, fondamental. Nous avons décidé de le traiter en quatre émissions. Et donc, autour de cette table sont réunies les trois confessions orthodoxes, protestantes et catholiques. Pour la confession orthodoxe, nous avons le père Jean Wesel, igoumène. Bonjour père.
Bonjour.
Pour la confession protestante, nous avons Herizot, le pasteur Herizot.
Bonjour.
Bonjour Herizot. Et pour la confession catholique, nous avons le père Labro. Bonjour père.
Bonjour.
Et moi-même, Jacques Allary, donc, qui vais un peu jouer le rôle de présentateur. Alors pour ce thème de la résurrection, nous allons le diviser en quatre parties. Tout d'abord, nous allons parler dans une première partie, dans une première émission, de ce que représentait la résurrection pour le peuple juif à l'époque de Jésus, quels étaient notamment les courants de pensée, à quelle époque cette notion de résurrection était apparue. Et nous allons également aborder ce qu'ont été les apports et les enseignements de Jésus par rapport à ce qui existait donc dans ce peuple juif de l'époque, ce qu'ont été les apports et les enseignements de Jésus sur cette question de résurrection. Dans une deuxième émission, nous parlerons plus spécifiquement de la résurrection de Jésus, comment s'est-elle déroulée, qu'est-ce qu'il en est dans les Écritures. Dans une troisième émission, nous poserons la question de savoir ce qu'il faut entendre par résurrection de la chair, et en quoi cette résurrection de la chair est-elle différente de la réincarnation. Et enfin, dans une quatrième émission, nous aborderons ce qui est important pour l'Église catholique, traité un peu différemment par l'Église protestante et par l'Église orthodoxe, la prière pour les morts et ce que représente le purgatoire. Voilà. Donc, première émission, la résurrection sous l'angle de ce qu'elle était dans le peuple juif à l'époque de Jésus. Père Labro, pouvez-vous nous répondre sur cette question de ce qu'était la résurrection pour le peuple juif à l'époque de Jésus?
Je veux bien faire une approche, si vous voulez. À travers toute l'Écriture court un souffle d'espérance. Dieu ne peut pas abandonner celui qui a mis sa confiance en lui. Et ce sera Jésus qui viendra proclamer la fidélité de Dieu dans la lumière de la résurrection. Mais déjà en lisant Isaïe, au chapitre 25e, « Dieu est plus fort que la mort, la vie aura le dernier mot. » Les hommes de l'Ancien Testament n'avaient pas bénéficié, comme nous, de la bonne nouvelle annoncée par Jésus. Mais pendant de longs siècles, ils sont restés dans l'ignorance au sujet de leur mort. Que devient l'homme après la mort? Mais ils gardaient une grande et invincible espérance. Dieu n'a pas fait la mort, Dieu est le grand vivant, la mort est sa grande ennemie, finalement Dieu la terrassera. On ne savait pas comment se réaliserait cette victoire, mais on en était absolument convaincu. On retrouve ça, par exemple, en Job. Job, pourquoi y a-t-il la souffrance? Pourquoi la mort? Pourquoi la souffrance des innocents? Et c'est dans la mort que se reposent ceux qui sont exténués. Bon, on pourrait continuer sur l'histoire de Job, mais tout au long de la Bible, on trouve des notions comme « Dieu est maître de la vie et de la mort » dans le Deutéronome. « Dieu sauve, il tire de la mort » dans Ézéchiel. « Je vais ouvrir vos tombeaux ». Il y a des cas de résurrection. Déjà, Élie, par exemple, ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. Ou encore, mais alors après, c'est en Saint Matthieu, l'enfant de Naïm, ou en plus en Marc, la fille de Jaïr, et puis plus tard, Lazare. Mais les opinions et les discussions sur la résurrection varient. Jusqu'au deuxième siècle, avant Jésus-Christ, où les Juifs n'avaient pas encore une conception totalement établie sur la résurrection. Leur Sheol ressemblait fort au séjour des morts païens. Mais avec le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 7e, suite à la grande révolte des Juifs, l'Ancien Testament accède pleinement à la certitude de la résurrection des corps. On le retrouve aussi au livre de la Sagesse. Et le livre de Maccabée ne fait que développer ce qu'on trouve déjà dans Daniel aussi. Voilà, le Nouveau Testament affirmera avec force cette foi, mais en la fondant sur la résurrection de Jésus. On peut dire que depuis toujours, l'homme s'interroge sur le sens d'une vie qui débouche après la mort. En Orient, comme en Occident, le principe de l'immortalité de l'âme s'est affirmé dans toutes les religions. Le corps, la matière, se dissolvant dans la mort, l'âme, l'esprit, ne meurt pas. Lui, l'âme est un don de Dieu. Le corps et l'âme sont indissociables, car c'est l'homme tout entier qui a été créé à l'image de Dieu, et il est appelé tout entier à l'immortalité. On pourrait continuer, par exemple, en signalant que la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament confondus, distingue deux morts. La mort corporelle, qui est le sort commun à tous les vivants. Dieu seul est le vivant, l'immortel. Et la deuxième mort veut désigner la condition de ceux qui se séparent de l'amour de Dieu. Et c'est avant tout cette deuxième mort que le Christ sauve par sa mort et sa résurrection ceux qui ne rejettent pas l'amour de Dieu. Mais la puissance de l'amour de Dieu est telle qu'à la fin des temps, lors du retour du Christ, les corps eux-mêmes reprendront vie, nous retrouvons ça en Romains 8, la vie atteindra sa plénitude, vie, amour et bonheur ne feront qu'un, comme ils ne font qu'un en Dieu.
Voilà, on a un peu mordu sur les apports de Jésus, là. Voilà. Est-ce que vous avez une réaction, là, Père Jean et Rizzo? Quelqu'un veut réagir sur ce bref rappel historique de ce qu'était la résurrection à l'époque de Jésus?
Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est qu'il y a le courant sadducéen qui discutait aussi de la résurrection par rapport à Jésus. Et donc, cette notion ne faisait pas forcément l'unanimité à l'époque. Donc, il faut peut-être souligner le débat pour dire tout simplement qu'il est toujours là, ce débat, même en nous, dans chaque individu en tant que croyant. Comment, individuellement et dans la communauté, on se situe par rapport à la question de la résurrection?
Oui, à tel point que les sadducéens, quand ils essayaient de piéger Jésus, dans un certain nombre de dialogues. Je pense notamment à ces Sadducéens qui parlaient de cette femme qui avait sept maris.
Voilà.
Avec qui ressuscitera-t-elle? Et Jésus va répondre, quand on ressuscite, on est comme des anges dans les cieux. Alors là, on arrive dans les apports donc de Jésus. Père Jean, vous avez sur ce rappel historique une réaction?
Oui, je suis tout à fait en accord avec le père Labro. Ce que nous savons, c'est que l'attente de la résurrection des morts au dernier jour, ça n'est pas une nouveauté pour Israël. Et je pense que leur passage dans le pays d'Égypte, les Égyptiens avaient une notion de la résurrection finale. Et il suffit de voir... les pyramides, les pharaons, les dessins, les peintures qui rappellent l'au-delà, la vie, etc. Chacun le sait suffisamment. Alors, dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, plutôt au chapitre 26 d'Isaïe, le père Labro a parlé du chapitre 25, il y a un texte qui me semble très fort dans l'Ancien Testament. Isaïe 26 au verset 19, il dit ceci: « Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront, réveillez-vous, exultez, tous les gisants dans la poussière, et le pays des ombres enfantera. » Je crois que c'est très fort, ça. C'est très fort. Alors, je pense que nous en parlerons plus tard. Le symbole, ce qu'on appelle le symbole des apôtres, dit tout simplement...
La résurrection de la chair.
La résurrection de la chair... Et le symbole de Nicée-Constantinople, la résurrection des morts. Alors, je ne sais pas si nous en parlerons, mais il y a une nuance.
Oui.
Il y a non seulement il y a une nuance, mais ce n'est pas contradictoire.
Non,
voilà,
non,
ce n'est pas contradictoire. Et bon, c'est un peu complexe tout cela. Résurrection des morts, résurrection de la chair. Qu'est-ce que la chair, n'est-ce
voilà,
pas?
On en parlera peut-être.
Voilà.
Oui, ultérieurement. Alors, ce dont on voulait parler dans cette première émission, qui avance à grands pas, puisqu'elle n'est que de 15 minutes, c'était surtout des apports de Jésus. Moi, il me semble qu'il y a un grand apport de Jésus par rapport à ce que vous venez de rappeler de ce qu'était la notion de résurrection. C'est quand Jésus nous dit, en Jean chapitre 11, verset 1 à 45, à propos de la résurrection de Lazare, qui n'est pas la résurrection au sens où l'entend Jésus, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Moi, j'en déduis que la résurrection pour Jésus, et c'est ce qui est nouveau par rapport à ce qu'on connaissait, et encore plus nouveau par rapport à la contestation des Sadducéens, la résurrection, c'est ici et maintenant. C'est-à-dire que vous pouvez, vous, les vivants, si vous êtes en communion avec Dieu, d'ores et déjà connaître la résurrection, c'est-à-dire l'immortalité. Et j'en veux également pour preuve ce qu'il dit en Marc, chapitre 12, notamment en réponse aux Sadducéens. « Quand on ressuscite, on est comme des anges dans les cieux. Quant au fait que les morts doivent ressusciter. » Alors là, il apporte, et il rappelle cet apport. « N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comme Dieu lui a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Donc on n'attend pas la mort pour ressusciter. On peut ressusciter d'ores et déjà. Et dans Luc, Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Et Luc rajoute, car tous sont vivants pour lui. Autrement dit, le grand apport de Jésus, selon moi, c'est de définir deux types de résurrection. La résurrection dans l'esprit dès maintenant, lorsqu'on est en communion avec Dieu, et la résurrection des corps à la parousie, c'est-à-dire à la seconde venue du Christ. Alors, qui veut s'exprimer sur cet apport de Jésus qui me semble important, Pasteur Hérison?
Je souligne la portée existentielle de la résurrection, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant, tu l'as très bien dit, dans l'ici et maintenant de l'existence individuelle de chaque être humain. À mon sens, c'est une réalité qui prend sens dans l'ici et maintenant, dans l'instantanéité de la rencontre avec le Christ ressuscité, même pour notre époque d'aujourd'hui, mais qui trouve aussi son total accomplissement au temps dernier annoncé par la trompette dont parle le livre de l'Apocalypse ou la lettre de Paul aux Corinthiens. Donc cette dimension existentielle de la résurrection me fait aussi penser à toutes ces personnes, notamment bibliques, au bord de la route, prostrées par les tuiles de la vie, mais à l'entendement de l'appel de Jésus à se lever, à se mettre en route, remettre en route et mobiliser leur force intérieure. Ils se remettent en marche, une marche vers une plénitude de vie qui est l'avant-goût, évidemment, de la vie éternelle qui est déjà là. Donc ce que nous vivons, ce que nous pouvons connaître de la résurrection aujourd'hui est finalement l'avant-goût de la vie éternelle qui est promise. Ainsi, la résurrection est donc une réalité en tension. Elle est déjà là, mais en même temps pas encore. C'est ce que disent les théologiens, car en effet, c'est déjà là, car le Christ est déjà ressuscité, mais pas encore, car nous ne sommes pas encore dans notre corps glorieux. Et je souligne, et peut-être que j'insiste sur le fait que la résurrection n'a de sens que si la confiance en Dieu, en Jésus, et sa résurrection n'est engagée par la personne elle-même.
Alors, Saint Paul disait dans l'Épître aux Romains, « Si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort, à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » C'est quand même une nouvelle extraordinaire, où Jésus nous dit, ben, vous pouvez d'ores et déjà entrer dans la vie éternelle si vous vivez en communion avec Dieu. Même si vos corps mourront, c'est certain, mais ils ressusciteront, ils rejoindront cet Esprit, mais d'ores et déjà, vous avez l'Esprit de la vie éternelle. Père Jean, vous avez envie d'intervenir?
Non, pas spécialement. Enfin, je pensais, c'est peut-être pour cela que tu me demandes de réagir. Je pensais tout simplement, dans la suite de ce que tu viens de dire, je suis toujours frappé lorsque je commence surtout la divine liturgie, la messe, si vous voulez, hein, la première chose, la première prière que le prêtre à chaque fois dit, béni est le royaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On commence l'office liturgique en disant « Béni est le royaume ». Bien sûr, le royaume annoncé par le Christ, le royaume de l'au-delà, mais le royaume de l'au-delà commence
déjà là.
Déjà là. Voilà. Hein, voilà. Il est déjà là. Voilà. Donc, en célébrant le culte eucharistique en particulier, en disant « Béni est le royaume », nous sommes déjà entrés dans le royaume.
Ça, c'est un grand apport de Jésus.
Tout à fait.
Un apport extraordinaire. C'est une nouvelle extraordinaire au monde.
Ouais. Alors, je reviens un petit peu. Tu as fait mention de Lazare. Lorsque Jésus arrive chez Marthe et Marie, après la mort de Lazare, son ami, Marthe, lorsqu'elle voit Jésus, elle lui dit, et là, ça revient un petit peu à ce que nous disions au début, « Je sais que mon frère Lazare ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Donc, c'est pour appuyer cette foi déjà du peuple juif. Et Jésus répond, en Jean 11, 24-25, « Je suis la résurrection, qui croit en moi fût-il mort, vivra. Hein? Je trouve cette parole très forte. Très forte. Alors, je pense que la nouveauté de l'Évangile, donc la bonne nouvelle, c'est le Christ. Hein? Car c'est par lui, par sa propre résurrection que nous venons de fêter, et nous sommes toujours dans la huitaine, je dirais, c'est par sa résurrection que nous avons l'espérance et même l'assurance de vivre après la mort. Dans sa personne, la résurrection universelle commence. Et j'ai là de suite une pensée qui me vient. Il y a très peu de temps, il y a vraiment très peu de temps, j'ai rencontré une personne profondément chrétienne, catholique, mais profondément chrétienne, qui vit de sa foi, et qui avait perdu un membre de sa famille, et je lui donnais l'explication, je crois en la résurrection de la chair, nous revenons au début, et je lui parlais de la « Je crois à la résurrection des morts », etc. J'ai essayé de bien lui expliquer. Et justement, au moment où j'essaie de lui expliquer ça, alors qu'elle était profondément ancrée dans sa foi chrétienne, elle me dit « Pour moi, c'est un problème. » Pour moi, c'est un problème. Ce n'est pas son problème à elle uniquement, mais je constate que c'est une question que tout chrétien, enfin tout chrétien, bien des chrétiens, achoppent devant cela. Qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas, quand quelqu'un est mangé par un requin, quand, vous comprenez, qu'est-ce que ça veut dire la résurrection finale? Hein, va-t-on, mais on en parlera tout à l'heure, oui. Va-t-on ressusciter avec son propre corps, qu'est-ce que c'est, voilà. Mais beaucoup de chrétiens chopent.
Voilà, ce sera le terme ça d'une prochaine émission. Je pense qu'on a épuisé cette première partie. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine émission.